Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21e numéro de Sans langue de bois. Après quelques semaines où vous avez entendu d'âpres débats entre militants, où l'actualité pas toujours la plus drôle a été décortiquée pour vous par nos meilleurs analystes, voici venu le temps de la pause récréative mais non moins sérieuse. Et voici donc un nouveau numéro de...
Sans langue de bois s'amuse.
Merci beaucoup, ça va déjà mieux que la dernière fois. Avec moi autour de cette table, Fabien, grand Manitou de l'actualité...
Bonjour Marie-Ève.
Tatiana, toujours encore la grande spécialiste des débats de société que je ne présente plus.
Merci Marie-Ève.
Alors Thomas, qu'est-ce que je peux dire?
Ne dis rien, bonjour
de l'actualité. Et Annette, notre spécialiste de l'actualité internationale. Et donc, nous avons des invités exceptionnels en ce jour, dont Mathilda, qui est une élève du lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône et qui est venue accompagnée d'un fan club. Nous n'oublions pas nos supporters du jour et peut-être futurs jokers pour nos candidats, c'est très important. Des élèves donc du lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, Pauline, Fanny et Oriane. Merci à vous d'être venus
on
aussi.
On compte sur vous.
Ah oui, on compte sur vous. Hein.
Et donc vous êtes venus soutenir les candidats et pourquoi pas participer un peu, tout comme vous le faites sûrement, chers auditeurs, en ce moment même. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle le concept de l'émission. Les candidats répondront avec vous donc à une série de questions portant sur l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Cette fois-ci encore, les questions seront classées par thème afin de varier les plaisirs. Et nous commençons tout de suite par un thème très sérieux pour nous mettre dans l'ambiance, le chapitre « Réformite ». Et nous allons tout de suite évoquer donc la mesure phare de ces dernières semaines, incontournable, celle qui va changer la vie de bon nombre de Français.
Le mariage gay ?
Plus, ça concerne encore plus de gens à mon avis en France.
L'intervention enfin... de Nabila.
Non.
Allô quoi ? Allô ?
Bon, alors je vais vous aider.
Thomas, t'as des cheveux ? T'as pas de shampoing ?
Mais allô quoi ?
Je vais donc poser la question en bonne et due forme pour que vous puissiez trouver la réponse. Pour quel projet Matignon a-t-il donné son accord le 5 février dernier ? Après nombre de concertations et une réflexion avec beaucoup de commissions.
Flexisécurité ? Non.
Non plus.
Ça concerne le domaine économique ?
Éducatif ?
Non, plutôt sociétal. C'est pour ça que ça concerne
sociétal.
Beaucoup de gens. Ça a commencé à faire de la polémique et ça a été remplacé par d'autres polémiques. Donc on s'en souvient peut-être plus à cause de ça.
Ah oui, c'est pour ça.
Ah, non, les salles de shoot.
Exactement, merci Tatiana.
Voilà.
Le
patron de la Noé donc a confirmé la décision du gouvernement par ce communiqué de presse. D'ailleurs, l'information est tombée lundi soir par France Culture ou je ne sais quelle autre radio.
En avant-première.
Voilà, en avant-première. Bertrand Delanoë l'a confirmé le lendemain et donc ça y est, les négociations sont là, une salle de shoot.
En fait, tu faisais semblant de ne pas savoir pour nous ridiculiser après avec toute la précision de tes chiffres, c'est ça ?
Non mais Thomas, t'es un mec. Il n'y a pas de micro.
Allô, quoi ?
Alors, je ne sais pas si vous connaissez la genèse du projet.
Ça avait été proposé donc, sous l'ancien gouvernement, mais finalement, ça n'avait pas transpercé la sphère publique. C'était une décision restée
en tout cas, il y a eu beaucoup de promesses, et notamment, pour n'en citer qu'une, c'était la ministre de la Santé, mais là, je crois que c'est l'actuelle Marisol Touraine, qui avait promis des expérimentations dans le courant de l'année 2013, et il y avait eu des études donc, qui avaient été faites. Mais ce qui est aussi assez notable, c'est que plusieurs villes, de gauche comme de droite, sont partantes. Donc, un projet qui unifie la droite et la gauche, et c'est pour ça que j'ai pris cette question.
Oui, on parle d'en ouvrir une près de la gare de l'Est, notamment.
Gare du Nord, non ?
C'est ça, près de toutes les gares, en fait, parce que c'est les quartiers où on s'en fiche
de la gare du Nord.
D'accord, Fabien, mais tout le monde d'accord, résume la situation.
Personne ne veut de la salle de shoot à côté de chez lui, c'est ça le...
Et en Allemagne, ça existe déjà ou pas
Les salles de shoot hein. Oui, je crois, c'est pour les... Oui, ça existe.
C'est dommage qu'on n'ait pas le geste, mais tu mimes très bien ça.
Oui, ça existe.
D'accord, donc les Allemands étaient encore une fois en avance sur nous. Mais ça, c'était que la mise en jambe pour le projet, pour les nombreux projets de réforme qui ont eu lieu au courant du mois. Et je vais passer en un deuxième temps à une mesure encore plus importante, s'il en est.
Eh bien sûr, un tel accord était vital quand on observe la dérive des coûts salariaux en France depuis 2000, plus 40% chez nous dans l'industrie automobile quand ils sont baissés en Allemagne.
Bon, alors j'avoue que lundi c'est très maigre, mais peut-être que vous pouvez trouver de quoi il s'agit. Et quel est l'accord ?
Non ?
Peut-être que ça
la
va
mère,
marcher
moi.
Dans les prochaines. La flexi-sécurité. Non, c'est concernant Renault qui a sorti. D'ailleurs, là, c'est Annette va être ravie. Là, cette nouvelle publicité de Ich bin aussi. Non, la Touch French, c'est ça. Avec la nouvelle touch. Renault. des Allemands. Elle est énorme, cette pub. Je ne sais pas si tu l'as vue, Annette.
Non.
Qui se marre
il se
des Allemands.
Aussi des Italiens, des Allemands.
Et ça beaucoup dépend, des en fait, Allemands, oui.
La pub Opel Dutch Qualitat.
Bon, moi qui voulais faire une émission sérieuse, c'est nouveau fichu. Donc le 13 mars dernier, tout récemment, Carlos Ghosn, le président de Renault et les représentants des organisations syndicales CFDT, CFECGC et FO ont signé l'accord Renault intitulé « Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France ». Bon, bah, c'est peut-être le terme abrégé. Merci Annette. Moi j'avais plutôt entendu parler d'accord de concurrence. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, si vous pouvez expliquer toutes les tractations qui ont eu lieu. Je pense notamment à Tatiana, qui est une spécialiste.
De Renault, non, parce que de la flexi-sécurité, il y a Annette, elle n'a toujours vraiment pas dit ce qu'elle avait à dire.
Bon, alors c'est quoi la flexi-sécurité?
Annette, s'il te plaît, vas-y, fais-toi plaisir.
Non, c'est apparemment un nouveau accord entre, qui a fait votre gouvernement. Et c'est plus facile de virer les gens, mais en même temps, on vous dit que c'est aussi plus de sécurité.
Oui, parce qu'en même temps, il n'y aura pas d'entreprises qui vont disparaître normalement. Enfin, c'est ça qui est sous-entendu dans les
crises. Oui, on fait disparaître les employés, mais pas les entreprises.
Oui, c'est un peu comme ça. Oui.
C'est suite à l'accord entre le patronat et les principaux syndicats qui avaient été signés donc, en janvier. On en avait parlé ici d'ailleurs. Où dans les clauses qui ont donc été retenues, il y avait cette flexi-sécurité, c'est-à-dire que le patron peut demander à un salarié de travailler moins et ou d'être moins payé. Mais il a pendant 2 ans la certitude de garder son emploi qui est quand même précarisé. Voilà.
Et alors, est-ce que c'est une avancée du libéralisme encore?
Ah, du libéralisme, oui, social, pas forcément, mais...
Bon, alors pour terminer quand même en beauté, le chroniqueur d'Europe 1 que vous avez entendu juste avant a précisé ensuite que cette mesure ne ferait gagner que 300 euros par voiture pour le consommateur. Et donc, toujours dixit ce même chroniqueur, il n'y a pas de quoi relancer la consommation. Mais il y a peut-être d'autres stratégies.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser les ventes chez Renault ?
Eh bien, redonner l'envie d'acheter des voitures. Et Carlos Ghosn s'y est employé l'autre soir sur les Champs-Élysées. Il a profité de la journée de la femme pour lancer à Paris son nouveau modèle Captur. L'allure de ce crossover citadin est effectivement assez loin des 4x4 machos, avec des détails qui ne trompent pas, une boîte à gants qui ressemble à un tiroir fourre-tout accessible pour le conducteur et la conductrice, bien sûr, des housses faciles à dézipper et à laver, y compris dans une machine à 30 degrés.
Donc bon. Je résume après la minute mode de la
C'était
dernière fois.
C'était pour la journée de la femme.
Où on parlait du maillot de Messi, on va parler du design des voitures, c'est ça?
Tu parles du prix
quoi. On parle plus de flexi-sécurité.
Non,
on parle des voitures que les consommatrices auraient plus tendance à acheter.
Ça pour les cartes bancaires, moi je trouve ça fascinant, passionnant.
Pour les cartes bancaires?
Oui, on en parlera plus tard, non, ça. Les cartes bancaires léopard, transparentes, etc. Qui séduit les consommatrices. Mathilda, là-dessus?
Bah nous, moi je sais que pour les cartes jeunes, ils font maintenant des designs, de nouvelles cartes bancaires, que ce soit transparent ou plus ou moins fluo,
et
voire
toi,
à paillettes.
Carte, alors, elle est comment?
Alors moi, ma carte, elle est verte et transparente. Avec,
et léopard, ça t'intéresserait ou...
Non, mais je pense que ça peut lancer une mode, pourquoi pas.
Un vrai scandale, plutôt, dans les chaumières. Nous passons tout de suite à la rubrique scandale. Et quand je vous dis scandale pour le mois qui s'est écoulé, vous pensez tout de suite à...
Marcella Yacoub.
L'amiante.
L'amiante.
Non.
C'était il y a quelques années.
Cheval.
Oui, merci.
Ah, cheval.
C'était le mot-clé, merci. Viande de cheval.
L'amiante, c'est pire.
Il faut mieux manger du cheval que de l'amiante. Mais par rapport à Marcella Yacoub, je sais pas. Dans la hiérarchie, où il faut la placer.
Bon, moi, ma question plus sérieuse, c'est quel était donc le procédé qui permettait la falsification de la provenance de cette fameuse viande ?
Du prix sur l'étiquetage, on annonçait que c'était de la viande de porc ou de bœuf, alors que c'était en réalité de la viande de cheval. Et c'est un problème d'étiquetage parce qu'on ne sait pas, et notamment pour le consommateur, quand il va acheter son hachis parmentier, etc., on ne sait pas exactement d'où vient la viande et quelle est la nature de la viande. Et c'est ça qui a fait la polémique, parce que il faut le dire, c'est pas un scandale sanitaire. La viande qui était dedans, elle n'était pas frelatée, il n'y avait pas de bactéries ni rien. On trompait le consommateur en lui disant qu'il pensait manger du bœuf et du cheval. Alors à part ceux qui, par sensibilité ou éthique, ne veulent pas manger du cheval, ça ne faisait rien. C'était juste voilà, une mini-crise, une mini-polémique.
Mais est-ce que ça va amener un changement alors dans ce procédé de traçabilité des produits, à votre avis? à l'échelle européenne, ce qui est compliqué.
Ça va poser
parce
des
que...
questions, mais pas plus que le scandale de la vache folle, le scandale de toutes ces choses-là.
Mais ça pose quand même une question au niveau européen, puisque ces viandes venaient de Roumanie à l'origine, qu'elles ont transité par d'autres pays.
La Hollande, notamment, voilà, l'Italie, certaines. Mais le problème, c'est qu'on aura beau mettre un label Union européenne, on aura beau dire oui, cette viande, c'est une viande de cheval, si derrière, on ne donne pas de l'argent pour qu'il y ait des contrôles, parce que c'est bien ça le fond du problème, c'est les contrôles dans les abattoirs et tout au long de la chaîne de production, tant qu'il n'y a pas cet argent-là, qu'on rajoute européen, qu'on rajoute cheval ou dindon, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, ça sera toujours pareil et on pourra toujours manger du cheval ou du dindon à la place du bœuf.
Le problème avec les chevaux, ils ont apparemment un passeport. Et non, un passeport, oui.
Qu'ils montrent à la frontière en
arrivant. Non, je vais être abattu, non. Non, c'est comme ça.
Les chevaux. Il y a son petit nom, par exemple,
non,
sur le passeport.
Non, je ne sais pas. Mais il y a des chevaux pour l'abattage.
Ah oui.
Et si tu as un cheval, tu as un passeport, tu as un petit passeport et vous donne des vaccins et vous êtes destiné à la consommation humaine. Il y a des vaccins qui sont interdits pour vous, comme cheval. Et c'est aussi un autre problème. Ouais. Et avec le passeport, on peut falsifier très facilement.
Ça veut dire que les chevaux de cirque roumains surdopés
peuvent être dans les lasagnes Findus.
Alors, l'autre problème, c'est vous avez mangé. Moi, non, parce que moi, je suis végétarienne.
Des chevaux.
Et vous avez des chevaux avec des vaccins qui peuvent être toxiques.
Et ça, pareil, avec l'étiquetage ou avec une réforme des passeports, ça pourra ne pas changer parce qu'il faut les contrôles. Tu dis ça, il faut vraiment renforcer les contrôles. C'est ça le problème à l'origine, sauf que, c'est... Le contexte actuel fait qu'on va pas remettre de l'argent pour payer des contrôleurs et que c'est un scandale. Et comme tous les scandales en ce moment, il passera, il va être remplacé par un autre, on aura oublié. Et dans 10 ans, on reparlera de ça certainement avec un autre produit. Mais rien ne change.
Un scandale sanitaire, c'est quand même un fait intéressant de voir à quel point le fait de manger de la viande de cheval suscite encore et élève les susceptibilités dans notre société, plus que le fait de trouver du porc dans la viande de kebab, par exemple, dont on se fiche.
Alors que si ça se trouve, la viande de cheval est bien meilleure à la santé que les viandes de porc ou de bœuf.
Elle est moins chère et meilleure.
Et par résidu qu'on nous met dans nos hachis parmentiers.
Et pas mauvaise, ceci dit.
Oui, pour après.
C'est bien à tester.
Mais après, il y a des personnes qui luttent contre l'hypophagie, justement. Et c'est vrai que c'est comme en Chine, il y a des personnes qui mangent des chats ou des chiens. Est-ce qu'il y aurait une population française qui accepterait de manger des chats ou des chiens? Après, ça dépend de comment on voit le cheval en tant qu'animal domestique ou alors en tant que viande.
Mais il y a toujours eu un scandale avec le fait de manger du cheval.
C'est une question d'éthique.
Dans les boucheries chevalines, on n'avait pas le droit de mettre les os pour pas montrer qu'on tuait du cheval, pour pas le distinguer d'un rôti de bœuf quand on passait
dans la rue. C'est éthique, c'est culturel, mais sur le point de vue sanitaire, il n'y a pas de scandale à avoir.
La grosse question, la France est-elle prête à manger du cheval?
Voilà. Thomas m'avait presque fait la transition idéale en disant qu'un scandale en éclipse un autre. Et effectivement, un scandale en a éclipsé un autre, du moins pour les Allemands. C'est la viande de cheval qui en a éclipsé. Alors je demande à Annette de ne pas tout de suite répondre parce qu'elle sera forcément au courant. Je vais voir si les autres le savent. Les Allemands, eux, avaient d'autres soucis au début du mois de février. Un autre scandale a défrayé la chronique. Est-ce que vous vous en souvenez?
Est-ce que c'est dans le même domaine? Non, pas du tout.
Pas du tout.
On a plus de pop.
Ça,
c'était pas début février. C'était fin février.
Est-ce que ça concerne Angela Merkel?
Indirectement, oui.
Le CDU, alors?
Non, pas son parti. J'ai dit indirectement, parce que ça concernait une autre personne qui était liée à Angela Merkel.
C'est un scandale politique.
Ça a eu une portée politique. C'est un ministre qui a été débarqué, non? Il n'y a pas eu ça.
Oui, et pourquoi? Toujours pour la même raison chez les Allemands.
Corruption?
Non.
Des affaires de mœurs?
Non.
Là, on a tous les torts des Allemands.
Une affaire de mœurs universitaire.
Oui. Ah oui, les thèses.
Elle s'appelle comme moi.
Alors donc, on devient un salon de rencontre aussi. Sur multiforme.
Donc, pour mettre tout le monde d'accord, c'est Annette Chavannes qui est concernée, la ministre de l'éducation allemande. En plus, la ministre de l'éducation qui était concernée.
Et elle était très forte. Elle a besoin d'une élite.
Et elle a plagié des thèses.
Oui. Mais c'était il y a 30 ans. Mais j'ai lu un peu sa thèse, c'est pas grand chose, il faut le dire.
Donc ils ont ressorti en fait ses écrits, c'est ça, et ils ont vu qu'il y avait du plagiat.
On a des chercheurs qui font ça sur Internet. Ils ont des sites avec toutes vos thèses. Non.
Oui, il y a des chercheurs qui passent leur vie entière à chercher les fraudes.
C'est toujours les gens à la droite qui font les plagiats. Et la gauche n'a pas de thèse.
Ha ha ha!
Est-ce que ça valait le coup de la débarquer pour ça, franchement?
Oui, parce que tu disais, Annette, t'avais l'impression, enfin, on avait l'impression que tu disais que c'était très minime son plagiat, c'est ça? Elle n'a pas tout plagié?
Non.
Parce que tu l'as lu, c'est ça?
Oui, j'ai lu des extraits et c'était pas... Non, je voulais dire, c'était pas grand-chose comme thèse, c'était pour une...
C'était nul, quoi, c'est ça?
C'était nul, oui.
On peut faire une mauvaise thèse et être un très bon ministre de
l'éducation. Par exemple, elle a écrit quelque chose... Elle a écrit sur la conscience, en plus. Sur la conscience.
Elle est philosophe?
Non, c'était elle est théologienne et fait des études pédagogiques. Et mais tous les on a aussi dit mais tous les thèses en pédagogie sont nulles.
Je rappelle que l'IFE fait partie de l'ENS.
L'autre problème avec ça, c'est qu'elle n'a pas été débarquée, c'est qu'elle a démissionné de son plein gré parce que elle était une amie d'Angela Merkel et qu'Angela Merkel est en pleine campagne déjà pour les prochaines élections.
Elle a démissionné du plein gré d'Angela Merkel. Donc.
Oui. Elle n'a pas eu les choix. On peut pas faire être ministre de la l'éducation et quelqu'un lui demandait un logiciel contre le plagiat et elle a dit non et c'est un peu c'est un goût.
Ça... Mais on comprend pourquoi elle a dit non, du coup. D'accord. C'est posteriori.
Est-ce qu'on pourrait envisager ça en France, enfin, avec tous les énarques qu'on a
Ils font des thèses, Léna?
Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier quand même. La légitimité est acquise par la scientificité des écrits et ça doit être prouvé. Enfin, le scandale Gutenberg, ça n'a pas du tout touché la France et même un Français... C'est pas un scandale, quoi. Ça se passe dans le milieu intellectuel, la sphère intellectuelle. Et encore, c'est un cas de conscience personnelle qui n'a pas à voir avec les lecteurs.
En Allemagne, il est très moraliste là-dessus.
Merci. Nous passons tout de suite, après la rubrique scandale, à la rubrique suivante, pouvoir. Ce mois-ci, donc le mois qui s'est écoulé, deux personnes ont eu un rapport particulier au pouvoir. L'un s'y est accroché, l'autre a plutôt décroché, comme on verra par la suite. Alors, quelle est la personne qui s'est accrochée au pouvoir?
Laurence Parisot, non?
Merci, Tatiana.
Ah ben...
Habemus papam.
Habemus papam. Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam.
Prochain cardinal protodiacre, Thomas Lacombe.
Alors, les grandes
étapes...
Je vous
bénis.
Merci. Amen. Les grandes étapes de ce bouleversement du monde catholique romain ont été fêtées dans le monde entier, mais pas toujours de la même manière. Est-ce que vous pouvez me rappeler deux événements similaires qui ont eu lieu à chaque fois pour fêter et marquer ces événements? Une première fois à Notre-Dame de Paris et la seconde fois sur la place Saint-Pierre. Donc pensez le lien entre Notre-Dame de Paris et Saint-Pierre de Rome.
Monseigneur 23?
Non. Presque, c'est bien tenté.
Les cloches à Notre-Dame, il y a des nouvelles cloches à Notre-Dame.
Non.
Dis pas non, il y en a. Merci Annette, les flics de sécurité, non plus.
Quels sont les deux événements qui ont défrayé la chronique et ont fait parler d'eux en annexe
Le mouvement féministe, non?
Merci.
Les
féministes, maman.
Bonne réponse, merci Annette.
Femen, c'est ça, femen. Ouais. Femen qui est aussi un mot latin d'ailleurs qui veut dire cuisse.
Si on en vient à devoir manifester, nu, là c'est pas totalement nu, mais ça montre quand même qu'on est dans une société qui n'admet pas la contestation.
Oui, non, mais d'un autre côté, les fémines, elles sont quand même très critiquées, même par les féministes qui disent que c'est trop extrême et que ça fait le jeu.
Oui, mais cet extrémisme, ce sextrémisme, comme elles disent, oui. Finalement, ça vient d'où? Ça montre bien que les outils de militantisme actuels ne suffisent plus pour parler. Pour se faire écouter, pour être médiatisées, elles le sont et elles ont réussi grâce à ça.
Oui, elles sont médiatisées, mais après, est-ce qu'on comprend vraiment leur message? À part juste les voir seins nus avec des inscriptions, est-ce que les gens retiennent autre chose? Je crois pas, vraiment. Je pense qu'on en reste à ça en se disant c'est une bande de féministes illuminées comme tous les féministes et ça dessert plus la cause des féministes qu'autre chose. C'est ça que les gens retiennent. Et vraiment, c'est pour ça que des associations comme les Chiennes de Garde ou d'autres disent qu'elles n'adhèrent pas, en tout cas sur la forme, aux fémines qui d'ailleurs se sont installées à Paris. Elles ont un bureau à Paris. Oui. La plupart ont des visas pour rester sur le sol parisien. Et oui, ça pose des questions.
Parrainées en France par Caroline Fourest.
Oui, bah ça c'est normal. Enfin, s'il y a bien un parangon en France de l'extrémisme féministe, c'est Caroline Fourest.
Non, mais bien sûr, mais enfin, quand même, là, cette nouvelle façon de manifester, de se montrer dans cette sphère publique pour revendiquer quelque chose, c'est important et ça montre qu'il y a, enfin, qu'il y a ce problème là de démocratie. On en vient à faire ça. Et on voit que même dans, pas seulement dans le mouvement féministe, mais dans tous les mouvements, tout se radicalise. Et là, c'est vrai. Enfin, c'est là où on peut voir qu'il y a un danger. Et si on en arrive à cette radicalisation, ça pose encore le problème de la démocratie.
Ça montre qu'il y a un problème, ça ne montre pas la solution, en tout cas.
C'est un extrémisme parmi d'autres, en gros, ce que tu dis.
Oui, non, bien sûr. Après, moi, je veux dire, personnellement, je défends cet extrémisme dans la lutte, même au quotidien. Et moi, je trouve ça une bonne chose. Voilà, je l'ai dit.
Ben vas-y.
Je l'ai dit. Sans langue de bois. Non, mais parce que ces femmes-là ou ces gens-là, ces militants, ils ont une passion et ils ont besoin de ça. Et c'est leur façon de vivre, leur façon d'être au monde, à la sphère publique. Et voilà, c'est un bonheur. Pour elle, et puis il y a les contestations, et voilà.
Moi, je pense que contester admis à poil, ça peut être peut-être un bonheur activiste, je sais pas. Mais moi, je pense que c'était surtout une question de provocation, et elles ont réussi comme ça à faire parler d'elles. Parce que c'est vrai que...
Mais tu penses qu'il y a besoin de provocation aujourd'hui, même du coup
Oui. Bah partout...
Et tu trouves que c'est une bonne chose, alors ?
Bah non, moi je trouve pas que c'est une bonne chose, mais...
Oui, parce que parler d'elle comment ? Voilà, après, c'est ça. Elles ont fait parler d'elle, mais après, qu'est-ce qu'on retient, c'est ça.
Seins nus partout dans notre société sur Playboy.
Non, les attendus sur Playboy, les seins nus sur un cassatière de Rome, si je puis me permettre quand même.
Normalement, les gens trouvent ça normal. Et si les féministes font ça, c'est oh, c'est des seins nus. Hein,
on est passé quand même du pape à Playboy là.
Revenons. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le nouveau pape, mais comme Thomas voulait absolument en parler dans cette émission, peut-être que.
Bah oui, parce que c'est l'actualité. Il vient d'être élu, le pape François, donc. Et oui, c'est un profil atypique déjà, rien que le nom. Beaucoup de promesses, Saint-François d'Assise.
On va le confondre avec le président ou avec le roi, non ?
Il parle avec les chevaux, Non, dans les lasagnes.
C'est bien, Annette, bien.
J'aime beaucoup Annette, tu fais bien le lien dans l'émission. Est-ce nécessaire toujours ? Je ne suis pas sûr. Non, pour revenir à François d'Assise, voilà, c'est quand même fort de prendre le fondateur des frères mendiants, voilà, qui y a tout le côté humble, le côté ouverture qu'il n'y avait pas avant, avec rien que dans le symbole de prendre Benoît et la réforme bénédictine. C'est pas la même chose. On est sur deux types d'organisation de l'Église. Quand Saint François d'Assise arrive et dit qu'il a entendu Dieu au XIIIe siècle, dit qu'il fallait reconstruire l'Église, on est bien dans ce message-là qui est véhiculé par le nom de François. Il y a aussi la volonté de dire qu'il va y avoir un meilleur dialogue avec l'islam, parce qu'on a oublié que Saint François d'Assise, c'était la première personnalité chrétienne occidentale à avoir fait un dialogue avec le sultan. C'était en 1219, il était allé voir le sultan de Babylone, il y avait une guerre à l'époque, et ils étaient venus non pas pour l'évangéliser, non pas pour le critiquer, mais vraiment pour faire un dialogue. Et c'est aussi cet œcuménisme-là qu'il y a dans le monde de... Voilà. Interreligieux qu'il y a entre...
Comment on dit œcuménisme en allemand, Bernadette ? Est-ce qu'on peut me redire le prénom ?
Annette.
Oui, je dois, à cause de l'affaire Chavannes, j'ai dû changer de prénom.
Moi, ce que je trouve assez fort avec cette histoire, c'est qu'on montre comme... ça montre que l'Église catholique, elle est encore sacrément solide, contrairement à ce qu'on dit. Parce que mine de rien, ça fait beaucoup plus d'une semaine que tout le monde regarde ce qui se passe.
Mais c'est l'événement.
Rome.
Ça passionne les gens.
Et ça encore. Oui, voilà, c'est ça. Il y a encore une force. Ils sont quand même balèzes, ces catholiques.
Le nombre de journalistes qui étaient sur la place Saint-Pierre.
Captiver la
et
chose.
Et puis le film, c'était vraiment un film. Moi, j'ai suivi la cérémonie du conclave, l'ouverture. On voyait, voilà, tout était filmé. De la procession à l'entrée dans la chapelle Sixtine, les magnifiques fresques qui étaient filmées, l'installation, la prestation de serment. Et puis après, cette magnifique image du cardinal qui vient refermer les portes et conclaver le conclave qui commence. Voilà, ça c'est des images fortes qui ont après pu être détournées, critiquées. Mais oui, on a fait un film, il y a une portée dramatique et historique à cet événement.
On le regarde quand même avec un petit côté folklorique aujourd'hui
oui,
aussi. Mais ça compte beaucoup, et notamment en Amérique du Sud, d'où vient notre ami Bergoglio. Oui, c'était très drôle d'ailleurs, l'annonce, personne n'attendait un pape qui s'appelle François. Et les chroniqueurs, les journalistes qui étaient censés couvrir l'événement, j'ai écouté sur France 2 pour ma part, quand il entend Abemus Papam, etc., et qu'il dit qu'il s'appelle Franciscus en latin, Franciscus, donc il a dû dire. Le chroniqueur savait pas comment traduire Franciscus, donc il commence Cardinal Francisque, Francis, je ne pense pas. Et un autre lui dit il doit s'appeler François. Et ça montre un petit peu la
gêne. On attendait Benoît, on attendait Pierre.
On a eu deux surprises, le fait que ce soit un latino. C'était quand même si tout le monde en parlait, c'est quand même une surprise. Et ça fait plutôt la gueule du côté de l'Italie, parce que c'est le premier cardinal non européen et non italien, même si bon, il a des petites racines italiennes qui vont.
Il a des origines italiennes, voilà. Donc,
on y va progressivement. Et ce prénom de François, comme le disait Thomas, qui replace dans une lignée du catholicisme qui était bien différente et qui est dans celle des ordres mendiants, un petit peu plus démunis. C'est un pape qui vit pas au siège de son archevêché, qui va dans les favelas, etc. Il est italienne, me dit-on.
Oui, j'ai quelques origines.
Alors, penses-tu de ce pape? T'es déçu que le pape soit pas italien?
En fait, non. Rome était très fière que le pape ait des origines italiennes. Ça le rendait beaucoup plus proche, en fait, de l'Italie, finalement, peut-être, que de l'Amérique du Sud. Mais aussi, ils étaient très fiers parce que quand il a commencé son discours, il a parlé en italien et il parlait apparemment assez bien l'italien en tant que pape d'Amérique du Sud.
Le pape est évêque de Rome, quand même.
Oui.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, il a commencé par ça. Je vous rappelle que le conclave, c'est l'élection de l'évêque de Rome, ce qui montre aussi l'humilité.
Oui, il a fait une petite blague en disant qu'ils ont été le chercher loin cette fois, l'évêque de Rome. Voilà.
Oui. Il semble bien que mes frères cardinaux soient allés le chercher quasiment au bout du monde.
Alors Thomas, lis une feuille, je précise.
Ah oui, bien sûr, c'est pas de texte. Hein. Je suis pas fan.
Il avait bien préparé, lui.
Et pour revenir à ce que tu disais, Fabien, surprise relative tout de même, parce que ce pape, il sort pas comme ça du chapeau. On a appris avec les confidences qu'il ne devrait pas être là, parce que normalement les cardinaux sont tenus au secret, c'était le dernier cardinal en lice face à Ratzinger, effectivement.
Oui, et ça montre encore que là encore l'Église catholique et le pouvoir de l'Église catholique ne fonctionne pas comme les autres types de pouvoir, parce que de nos jours, dans les élections politiques, une Ségolène Royal, elle était out après l'élection présidentielle où elle avait échoué et elle s'est pas représentée après.
Heureusement que le conclave catholique, c'est pas le congrès de Reims en même temps, parce que je m'inquiéterais. Là, l'Église catholique
C'est pas comme ça, parce que c'est pas normal que Benoît a démissionné.
Ah oui, c'est étonnant. C'est très, très étonnant.
Parce que même si tu es socialiste, 20 ans plus tard, tu n'as pas la chance normalement.
Alors. Bon, il aurait pu mourir avant aussi, mais oui. Je voulais revenir sur la démission.
Et surtout, il aurait pu ne pas être élu parce qu'il a 76 ans et la limite pour être dans le conclave, c'est 80. Donc là encore, la surprise et le changement avec ce pape est relative. On pensait qu'on aurait un pape très jeune. Il a seulement 2 ans de moins que Benoît XVI quand il avait été choisi à l'époque. Il avait 78 ans. Donc voilà, oui, ça change, mais en fait, pas vraiment.
C'est encore une transition.
Oui,
mais
c'est
ça. Pour résumer, une transition qui unifie bien différentes tendances et qui permet d'ouvrir des perspectives d'avenir
et qui marche certainement mieux que l'élection de Benoît XVI, parce que ça a plus fédéré les foules et certainement grâce à Benoît XVI, grâce à cette démission qui a fait les gros titres, qui a aussi redonné une part d'humanité à l'office sacré du pape et qui a fait redescendre près des fidèles le côté Vatican, les murs, les grandeurs, etc. D'où la volonté aussi de s'appeler François quand on succède à Benoît XVI et sa démission.
Alors nous passons tout de suite à la seconde partie de l'émission, Plus People. Alors, rubrique nécrologie tout d'abord. Je sais, c'est pas très rigolo, mais enfin, quand je vous dis rubrique nécrologie, vous pensez forcément à
Stéphane Hessel.
Et à
Chaise.
Merci. Prendre la question de Stéphane Hessel. Alors, j'avais une question plus personnelle pour le coup, c'est pas une question d'actualité, mais je voulais savoir quel héritage va-t-il laisser pour chacun de vous. Quel héritage allez-vous en garder de Stéphane Hessel?
Il a juste fait un gros coup de pub 6 ans avant sa mort. Enfin, le livre qu'il n'a pas écrit, pour lequel il a été sur tous les plateaux télé. Oui, il a réussi son coup, tant mieux, il était heureux, il a rendu des gens heureux, il a porté un message, même s'il n'en est pas vraiment à l'origine.
Le message, c'est le sien, enfin, je veux dire, défendre les acquis de la résistance et les acquis du CNR.
Bien
lui,
sûr,
le grand ambassadeur, l'ami de Pierre Bernard, c'est lui.
Ces prises de position avant ça, qui sont quand même très très gênantes.
Bien sûr, mais si on le considère...
Tu parles de prises de position sur le Moyen-Orient, c'est ça qui est gênant.
Oui, c'est ça, voilà. Oui, clairement.
Là, on ne parle pas de ça.
Et sa femme lui a quand même... était quand même...
pas jolie jolie au sens moral du terme évidemment, mais elle l'a tiré dans des positions au niveau du conflit israélo-palestinien qui étaient franchement douteuses. Bon, c'est jamais bien de remuer des choses sur...
Oui, ça a même fait débat à l'ENS à l'époque.
Oui. Voilà, hein, on se souvient du scandale qui a eu lieu à Ulm. Mais bon, après, aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'il n'a pas écrit une ligne du livre, qu'il est devenu un personnage qu'on a un peu créé après force des médias. Il a aimé ça. Tant mieux pour lui, et voilà, qu'il repose en paix.
Il a aimé ça, mais enfin, je peux pas laisser dire ça, il y a quand même derrière un engagement. Oui, il était vieux, donc forcément peut-être qu'il n'a pas écrit son livre. Après, de son livre, il n'en aurait certainement enlevé aucune ligne. En plus, il était petit.
Bah, j'espère.
Mais ce livre représente le combat d'une vie, le combat d'ambassadeur, de quelqu'un qui a participé à la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui s'est battu contre les sans-abri, qui a défendu l'héritage du CNR, et on peut pas balayer ça en disant « Oh oui, mais il a eu une petite position un petit peu ambiguë
Je ne le balaye pas, mais je dis juste que c'est dommage de ne retenir que les 6 dernières années et de ne pas parler de la résistance, notamment. On en parle quand même relativement peu par rapport à cet indignez-vous qui a eu le mérite d'exister et de dire des choses à un moment où on avait besoin d'entendre ça et, si possible, de la parole d'un ancien résistant qui faisait ça. Mais on peut aussi très bien lire ce que dit Jean-Louis Crémieux-Briac, qui a le même âge et qui dit des choses tout aussi sensées et qui était plus impliqué et qui, encore aujourd'hui, dit des choses très, très, beaucoup plus stimulantes et intéressantes, à mon sens, sur toutes ces questions.
C'est vrai que nous, en tant que lycéens ou collégiens, on ne parle pas beaucoup de Stéphane Hessel. On parle de grands résistants comme Jean Moulin, etc. Mais
Stéphane Hessel avait de la chance d'être le dernier vivant, presque. Donc, quand un drame a lieu et qu'on est le dernier vivant, on a toujours la dernière parole, on a la force du témoignage et on acquiert une force qu'on n'a pas si on est confronté à d'autres personnages.
Et on l'a d'autant plus quand on connaît son histoire, déporté à Buchenwald. Témoignage. Et ce n'est pas aussi anodin qu'il ait peut-être attendu à faire un livre comme ça, un livre héritage, avec son histoire personnelle et cette dimension propre que prend le témoignage chez lui. Voilà, c'est pas anodin aussi que ça arrive à la fin de sa vie. Alors toi, tu dis coup de pub. Non, c'est peut-être juste une clôture d'une vie, d'une existence. Il a voulu peut-être donner bilan.
Oui, la grande question, c'est s'il a voulu la clore comme ça ou si on l'a vraiment... à quel point il était auteur du livre. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas lui-même mis une ligne sur le papier. Et est-ce que c'est lui qui a pris la décision de faire le livre malin qui pourra le dire, ni l'éditeur ni lui ne pourront le dire.
Il ne pouvait pas savoir et ne pouvait pas savoir non plus les gens qui l'ont peut-être poussé à faire ce livre, l'écho que ça allait avoir.
Évidemment.
Qui eût cru qu'un livre de même pas 20 pages...
Et c'est là où il a été fort. C'est là où il a été fort, c'est qu'il a assumé l'écho que ça pouvait avoir. Et bon, après, de là à faire... Libé a fait 34 pages, je crois, ou un truc du genre. C'est beaucoup.
Mais le mouvement des indignés, par exemple, il a peut-être eu un écho aussi parmi les plus jeunes générations ou...
Disons que on va peut-être pas trouver ça dans un manuel d'histoire. Ça, voilà. Après, entre nous, oui, parfois on peut en parler. Mais pour ceux que ça intéresse, après... au lycée, il y en a qui sont peut-être pas intéressés par ce qui se passe ou l'histoire. Et moi, je sais que je connaissais, mais je pense que c'est pas le cas, de tous les élèves.
Et toi, justement, tu dis que tu connaissais. Mathilda, c'est quoi l'image que tu gardes de cet homme, Stéphane Hessel, et de son engagement?
De ce que j'ai retenu?
Oui.
C'est vrai que pour moi, c'était un grand résistant, disons, qu'il a su témoigner de tout ça et qui s'est... disons qu'il s'est engagé dans plusieurs conflits. Et c'est ça que je retiens.
C'est l'engagement que tu retiens.
L'engagement, voilà, tout à fait.
Oui, c'est un homme engagé, au moins. On peut s'entendre là-dessus, qu'on soit d'accord ou non avec les causes pour lesquelles il s'est engagé.
Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, je passe en deuxième homme engagé, à Hugo Chavez. Et là encore, c'est une petite question un peu plus sur le futur. Alors, bon, on a beaucoup parlé du personnage, on ne va pas revenir sur la polémique, ou peut-être que vous voulez en engager une, mais enfin, quel est l'avenir maintenant pour le Venezuela post-Hugo Chavez?
Ce qui est assez bizarre, c'est que Hugo Chavez, même s'il semblait avoir fait l'unanimité, aussi peut-être recréer un conflit de classe. C'est-à-dire que la bourgeoisie du Venezuela, je pense que pendant cette période de Chavez, elle a finalement... elle s'est réinterrogée sur le principe d'égalité et elle s'est sentie finalement opprimée. Enfin, alors, là, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais je pense que cette période Chavez, on voit tous ce qui a pu être apporté social, mais ça peut aussi, comme là, sa mort, ça a sacralisé quelque chose et je pense que ça peut recréer un conflit, une ambiance pas très saine. Je ne sais pas comment ça va se passer, etc., mais je pense que là, la bourgeoisie va réaffirmer ses valeurs et ça peut amener, pourquoi pas, à recréer une lutte de classe. Mais
question économique aussi, puisque le système Chavez, c'était un système d'exploitation du pétrole et des rentes du pétrole qui a été sacralisé aussi. Et que va faire la bourgeoisie si elle revient au pouvoir de ce système? Et que va faire le continuateur d'Hugo Chavez s'il accède au pouvoir? Et qui sera-t-il?
Voilà, les relations avec les États-Unis,
oui,
etc.
Qui sont connexes.
Voilà, on ne sait pas. C'est...
Et pourtant, c'est très important. Ça sera certainement un des enjeux des relations géopolitiques.
Mercosur ou Amérique du Nord.
Je vais passer au festival, grand festival d'Angoulême qui a eu lieu
à Angoulême.
De la bande dessinée.
Bande dessinée Angoulême du 31 janvier au 3 février dernier. Et pour terminer, donc, petite question pour ceux qui ont bien suivi l'actualité. Qui donc a obtenu le grand prix de ce festival pour son œuvre entière? Donc, c'était un dessinateur qui a beaucoup dessiné dans des journaux, notamment aux Pays-Bas. C'est peut-être pour ça que vous ne le connaissez pas trop, mais aussi dans Libération. Donc, c'est peut-être par là que vous pourriez le connaître. Pas du tout.
Willem, c'est dans Libération.
Oui, merci Fabien. Bravo. Il a une voix de la fin.
Comment s'appelle-t-il?
Vincent.
Vincent.
Merci Vincent.
À la régie qui régie. M'a soufflé.
Merci beaucoup aux lycéens, alors au public qui a participé, même derrière la vitre. Merci en particulier à Mathilda qui était avec nous autour du plateau et à ses camarades du public. Merci à Fabien, Tatiana, Thomas et Annette pour leur participation. Et donc vous pouvez retrouver nos émissions et notamment Sans langue de bois numéro 20, Paroles du militant.
La France, une puissance déclinante.
Merci Tatiana pour le coup de pub. Comme
et n'oubliez
d'habitude.
Pas la journée de la radio avant que tu prononces ton scandale. 29 mars, ENS de Lyon, site Descartes, Théâtre Cantor, Amphithéâtre Descartes de 7h30 à 18h, en compagnie de tous les lycéens qui étaient là aujourd'hui, qui feront leur petite émission en fin de journée. Leur grande émission même, qui dure une heure, sous le doux patronage de Thomas, ici présent.
Merci. Perle, hein.
Bon, et un autre, n'oubliez pas, très important celui-là pour clore l'émission, tous ensemble, surtout, n'oubliez pas
gardez l'esprit critique.